en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bon, je propose d'écouter les deux exposés prévus pour ce matin d'ouvrir un petit débat à la, sur les trois exposés plutôt que d'isoler enfin, l'exposé de M. Lévin. Donc, M. Couven, vous avez la parole.
D'accord. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Lorsque vous m'avez proposé donc, d'intervenir, vous m'avez même d'une certaine manière donné le sujet, puisque l'invention d'une catégorie intellectuelle et historique en Grèce, c'est le cas. Et en rebondissant sur cela, il m'a semblé pertinent de revenir pour concentrer les choses sur le livre de Victor Davis Hanson, « Le modèle occidental de la guerre ». Parce que parler de la bataille dans le monde grec, c'est très vaste. On peut en parler d'une manière liée à la religion, par exemple, comme peut le faire quelqu'un qui s'appelle Vincent Cuche et qui le fait très bien, mais ce n'est pas ce que je vais faire. On peut également voir tout ce qui tourne autour des rites d'initiation, autour de l'école de Paris, d'Étienne, Vernon, Vidal-Naquet, etc. Ce n'est pas non plus ce que je vais faire. J'ai essayé donc de partir de Hanson et revenir sur cette question de la phalange hoplitique qui pose bien des... Enfin, qui n'est pas si simple que ça, que cela, comme je vais le dire à plusieurs reprises. Donc, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs semblent avoir inventé une nouvelle technique de combat, l'affrontement de deux groupes de fantassins lourds disposés en phalange. On a longtemps pensé que cette révolution militaire avait accompagné la naissance de la cité et de la citoyenneté. La réalité n'est pas si simple. Auparavant, les Grecs de l'époque mycénienne, donc 15e, 12e siècle, utilisaient le char de guerre emprunté à l'Égypte et qui, au temps suivant, n'a plus été destiné qu'à la course. Les tablettes inscrites découvertes à Pylos et à Knossos révèlent également l'emploi d'arcs et de lances, tandis qu'une céramique dite du vase des guerriers nous montre des combattants équipés de protections relativement légères. Voici le vase des guerriers vers 1200 avant Jésus-Christ. Sauf que la grosse difficulté est que ce n'est pas une photographie et les reconstitutions qu'on peut en faire à l'époque contemporaine peuvent donner lieu en haut à droite à un armement léger ou en bas à droite à un armement lourd. Auparavant encore, donc les Grecs des âges obscurs, donc après l'époque mycénienne, c'est-à-dire 11e, 9e siècle, utilisaient un mode de combat qui n'a laissé presque aucune trace. Aucune trace écrite. C'est en effet une période de disparition de l'écriture avant l'apparition au 8e siècle de l'alphabet grec, et même quasiment aucune trace archéologique. Pour cette période des âges obscurs, nous restons largement tributaires des poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée, qui posent une série de questions d'ordre historique et littéraire. Le Monde d'Ulysse, titre d'un ouvrage de Moses Finlay, a été composé par un aède de l'époque archaïque, Homère, mais décrit une réalité composite, une sorte de patchwork, avec des éléments anciens hérités de l'époque mycénienne, mais désormais mal compris, des éléments des âges obscurs et des éléments de l'époque archaïque, et également des éléments en l'air, c'est-à-dire purement poétiques. À partir du 8e siècle, l'apparition de l'infanterie lourde doit être mise en relation avec des textes littéraires, donc Homère déjà, où l'on peut déceler la présence discrète de la phalange, mais aussi et surtout des poètes de l'époque archaïque comme Tyrtée, Alcée, Archiloque. À partir du 8e siècle, nous bénéficions aussi d'abondants témoignages archéologiques qui permettent aux spécialistes d'affirmer que c'est dans le courant du 7e siècle avant notre ère qu'est apparu ce mode de combat qu'est la phalange hoplitique. À partir du 7e siècle, alors les spécialistes hésitent entre le début du 7e, ce qui nous ramène déjà à la fin du 8e, ou alors le milieu du 7e siècle. Donc à partir du 7e siècle, le fantassin par excellence des armées grecques est l'hoplite, qui se définit donc par sa panoplie, c'est-à-dire un armement complet. Cet armement, d'abord défensif, protège bien le soldat. Un casque métallique très impressionnant, surmonté d'une aigrette, couvre le crâne et les joues. Mais au fil du temps, d'ailleurs, il a tendance à se réduire à un bonnet de métal conique. Le torse est cuirassé d'une armure de bronze, le thorax, et les tibias sont pourvus de plaques ajustées, les cnémides. Le fantassin tient un large bouclier rond, l'oplone, maintenu sur son bras gauche par un double système interne, que voici, d'une poignée anti-labet et d'un brassard qui tient donc le coude, en gros, qui est le porpax. L'armement offensif est constitué d'une pique légèrement supérieure à 2 mètres, munie d'une pointe de fer, et pour les combats au plus près, d'une épée relativement courte avec laquelle on taille, donc on frappe plus exactement de taille ou alors d'estoc. C'est toutefois moins cette panoplie que la technique de combat qui se renouvelle. L'hoplite ne se bat pas isolé, mais en réalité à l'intérieur d'un ensemble, la phalange, constituée de plusieurs lignes. L'invention essentielle est la poignée et le brassard, donc, qui permet de tenir fermement le bouclier rond. Par son bouclier, chaque soldat protège à la fois son propre flanc gauche et le côté droit de son voisin de gauche. La place la plus exposée, vous l'avez compris, est au premier rang à droite. C'est la plus honorable, elle est réservée au commandant de la phalange. On le voit, la solidité de la phalange repose avant tout sur sa capacité à demeurer unie, car la blessure ou l'abandon d'un homme en ligne de front, en créant une brèche, ruine la compacité de l'ensemble. Un flûtiste assure la cohésion de l'ensemble jusqu'au choc frontal des deux phalanges. Et voici donc la célèbre Inokoe Kiji, qui date de vers 640, qui représente donc deux phalanges s'affrontant l'une contre l'autre. Comment est apparue cette forme de combat ? N'imaginons pas le schéma d'une révolution hoplitique, c'est-à-dire d'un bouleversement très rapide et uniforme qui aurait affecté l'ensemble de la Grèce au 7e siècle. Ceux qui ont défendu cette hypothèse se fondaient essentiellement sur les récits des batailles homériques, dans lesquels le duel joue un rôle décisif. Et cette idée d'une apparition brutale, en vogue encore il y a une trentaine d'années, aujourd'hui a été remise en cause. Elle a été remise en cause notamment par l'archéologie. En effet, il semble bien que tous les éléments de l'armement hoplitique soient largement antérieurs au 7e siècle, à l'exception, peut-être, malgré tout, de la double poignée interne qui facilite la préhension du bouclier et qui donne à l'ensemble de la ligne de la phalange sa compacité. Les sources littéraires permettent aussi de contester l'hypothèse d'une révolution militaire. Une autre lecture des poèmes homériques, et en particulier de l'Iliade, a fait apparaître que, si les duels sont effectivement décrits avec le plus grand soin par Homère, la phalange est bien là, active, décisive dans ses interventions. Et je cite là un passage de l'Iliade, c'est le chant 16, au vers 212-217, qui dit « Comme un homme ajuste avec précision les pierres du mur d'une forte maison pour s'abriter de la violence des vents, de même, ils rapprochèrent leurs casques et leurs boucliers creux. Ils étaient bouclier contre bouclier, casque contre casque, homme contre homme, tant ils étaient serrés. » Finalement, de tous ces éléments, il ressort que la mise au point de la phalange a sans nul doute été progressive à partir d'un armement déjà ancien. Une série de petites modifications a permis un combat de plus en plus collectif à l'intérieur d'une ligne de bataille de plus en plus serrée. Alors aujourd'hui, on ne parle plus du tout de révolution, on parle d'évolution hoplitique. Je ne sais pas si on a beaucoup avancé, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Alors, après ce premier temps, j'en viens au deuxième. Les phases et le déroulement de la bataille hoplitique, parce que nous avons vu les choses par l'armement. Il faut maintenant voir comment les choses s'organisent sur le terrain de bataille. Dans un ouvrage désormais célèbre, donc The Western Way of War, donc paru en 89, traduit en 2001 à Paris aux Belles Lettres, Victor Davis Hanson, qui est un historien californien, se propose de revenir sur la bataille d'infanterie dans la Grèce classique. C'est le sous-titre de son ouvrage. Méthodologiquement, Hanson prend en compte toute source utile, des sources littéraires, archéologiques, iconographiques et épigraphiques. Et ces sources lui permettent de reconstruire ce qu'était la bataille hoplitique, pas seulement à l'époque classique d'ailleurs, mais en réalité à l'époque archaïque et classique, c'est-à-dire de vers 700, date d'apparition de la phalange, jusque vers 338, la fameuse bataille de Chéronée. En bon disciple de John Keegan, ou alors de Stendhal dans son Fabrice à Waterloo, Hanson dissocie la bataille de ses contextes stratégiques et tactiques pour l'étudier, cette bataille, comme une expérience personnelle, individuelle de soldat. Le cœur de l'ouvrage, qui est d'ailleurs très réussi, est constitué par la description de la bataille entre deux phalanges hoplitiques. Des chapitres séparés traitent de l'équipement et des armes, de la composition sociale de la phalange, de la peur avant le combat, du rôle des généraux, de la cohésion des hoplites, de la charge, du choc, de la déroute, des blessés. À la lecture, au fil des pages, nous partageons l'angoisse des hoplites, écrasés sous le poids d'une armure de plus de 25 kg, alors que l'été grec est suffocant, rendus à moitié aveugles et sourds par un casque mal commode, rendus incontinents par la peur, probablement à moitié sous à cause du vin ingurgité pour se donner du courage, stressés par les 200 derniers mètres parcourus au pas de course, unis dans des rangs compacts d'amis, de proches, de voisins, au son de la flûte, d'un péan, chant guerrier, puis d'un cri à la laille lors de la charge finale, avant le choc frontal d'une violence extrême où le but est de pousser au maximum sur la ligne adverse grâce au bouclier tenu fermement par la poignée et le brassard, et peut-être aussi de ficher frénétiquement de bas en haut la ligne adverse avec la lance, en espérant pouvoir faire pénétrer la pointe de la lance entre le casque et le thorax, à l'endroit du cou où la section de l'artère carotide permet d'espérer la mort rapide de l'ennemi. Le combat est bref, Hanson parle de 20 minutes, grand maximum une heure. Hanson s'appuie habilement sur les poèmes de Tyrtée, des passages de Xénophon, les descriptions des blessures issues de la littérature ancienne, aussi des peintures de vases qu'il utilise assez abondamment sans jamais en donner la moindre reproduction, malheureusement. Il ne tient pas compte, néanmoins, Hanson, des évolutions possibles entre le 8e et le 4e siècle, donnant à voir finalement une sorte d'idéal type de la bataille fonctionnant de la même manière, quelle que soit l'époque, sur plusieurs siècles. En fait, aucune description de bataille ne vient valider ou infirmer d'ailleurs le schéma ou système hansonien. À vrai dire, c'est la bataille de Marathon qui, pour la première fois, donne l'occasion à l'historien Hérodote d'exposer la manière grecque de se battre. Alors Hérodote, écrit un demi-siècle environ après les faits, n'a pu avoir connaissance que par ouï-dire de déroulement de la bataille, et Hérodote met bien en lumière le modèle d'une guerre fondée sur les hoplites. Or, justement, Marathon, d'une certaine façon, constitue un cas extrême. En 490, la bataille oppose des Athéniens à des Perses. Cette bataille ne fut pas un choc d'une importance capitale, ni dans le nombre de combattants. Il y avait 9000 Athéniens plus 1000 Platéens d'un côté, plus un nombre indéterminé de Perses. Les historiens estiment en gros actuellement à 25-30 000 Perses. Ni d'ailleurs dans les conséquences de la bataille du point de vue des Perses. En fait, la défaite des Perses sur la plage de Marathon clôt la première guerre médique pour les Grecs, mais n'efface pas le succès global de l'expédition de Darius. Toutes les îles de la mer Égée, que les Perses avaient facilement conquises, demeurent sous la domination perse. Par ailleurs, dans le récit d'Hérodote, la charge des Grecs apparaît étrangement menée, bien loin du bel ordonnancement du vase Kidji, tel qu'il est représenté vers 640. Hérodote nous dit en effet, les hommes avaient pris leur position, les sacrifices étaient favorables, alors les Athéniens, lâchés contre les barbares, les chargèrent en courant. 8 stades au moins séparaient les deux armées. Quand les Perses les virent arriver au pas de course, ils se préparèrent à soutenir le choc, mais ils les prenaient pour des fous, courant à leur perte, ces hommes si peu nombreux qui attaquaient en courant, sans cavalerie et sans archers. Ce fut leur première impression, mais les Athéniens les assaillirent bien groupés et combattirent avec une bravoure admirable. Ils furent à notre connaissance les premiers des Grecs à charger l'ennemi à la course, les premiers aussi à soutenir la vue du costume mède et d'hommes aussi équipés, ainsi équipés. Jusqu'alors, le nom seul des mèdes suffisait à épouvanter les Grecs. La bataille de Marathon fut très longue. Le premier affrontement hoplitique relaté avec quelques précisions n'est pas celui de Marathon, mais celui de la bataille de Délion de 424 qui oppose les Athéniens aux Thébains à l'occasion d'un épisode de la guerre du Péloponnèse. Encore, la description que l'on doit à Thucydide est-elle relativement succincte ? La voici. Sur tout le front de l'armée athénienne, les hoplites égaux en nombre à ceux de l'ennemi furent disposés sur 8 rangs de profondeur. À chaque aile se trouvaient des cavaliers. Quant à des troupes légères spécialement équipées, il n'y en avait pas au cours de ce combat et la ville n'en possédait pas. L'expédition avait bien compté un nombre élevé d'hommes, plusieurs fois aussi grand que celui de l'adversaire, mais ils n'avaient pas d'armes et ne suivaient l'armée que parce qu'on avait levé indistinctement les étrangers et les citoyens présents. Comme il s'était mis à retourner à Athènes, il s'en trouva qu'un petit nombre à cette journée. Donc voici la description du camp athénien, enfin de la ligne athénienne, disons. Et en face, les Béotiens. Les Béotiens, que de son côté Pagondas venait d'exhorter rapidement, se mirent à entonner le péan et descendirent la colline. Les Athéniens s'avancèrent à leur rencontre et les attaquèrent au pas de course. Les deux extrémités de la ligne dans les deux armées ne purent en venir aux mains, empêchées qu'elles furent, c'est des deux côtés, par des torrents. Mais partout ailleurs, la mêlée fut extrêmement vive, on se repoussait à coups de boucliers. Alors à partir de ces descriptions, se pose toute la question de la reconstitution du champ de bataille, qui est une expérience que l'on mène dans les écoles de guerre en Europe depuis de nombreuses années, et qui pose des tas de questions méthodologiques. La bataille telle que la décrit Hanson, n'était pas si fréquente qu'il le pense au 7e, 6e siècle, puisque à l'époque classique même, elle prend une tournure un peu différente, soit alors, et c'est sans doute ça qu'il faut retenir, n'engager que des contingents réduits, quelques centaines de fantassins en général, dans le cadre de combats frontaliers restés totalement inconnus de nous, pour la défense d'un territoire que les Grecs avaient tendance, dès l'époque archaïque, à sanctuariser. Mais quel était le but de la bataille hoplitique? En fait, il semble que le combat avait lui-même devait ressembler à une énorme poussée, ce que les Grecs appellent otismos, les lignes arrières jouant alors un rôle actif, non par leurs armes, mais par leurs forces. La victoire revenait au camp qui avait obligé l'ennemi à battre en retraite, submergé par la puissance du vainqueur. Point de stratégie pensée, ni de tactique élaborée dans ces conditions. Il est probable que les morts, que Hanson estime à 15% maximum de l'effectif des vaincus, 5% environ dans le camp des vainqueurs, succombaient autant par suffocation que par blessure meurtrière. L'armée en fuite n'était pas poursuivie, et un trophée, Tropaion, qui était un mannequin cruciforme décoré avec les armes de l'ennemi, était érigé à l'endroit même où la déroute, Tropée, avait commencé, manière de prendre à témoin les dieux. C'est bien là d'ailleurs une des conclusions essentielles de l'ouvrage de Hanson. Les Grecs ont inventé le concept de la bataille décisive, concept que Hanson estime être le seul héritage des Grecs à la pensée occidentale. Comme le dit Hanson, les Grecs de l'époque archaïque et classique se livraient une bataille par mutuel consentement, limitant ainsi la guerre à un acte bref et violent destiné à épargner donc la propriété et les propriétaires en partie et combattants et les non-combattants. Dès lors, Hanson donne à nouveau à voir la conclusion à laquelle était parvenu John Keegan, conclusion sur laquelle la bataille contemporaine, très destructrice, notamment à l'égard des civils, est une sorte d'anachronisme, du point de vue antique, bien sûr, parce que ce n'est pas un anachronisme. La conclusion est séduisante, même stimulante. Néanmoins, là encore, les choses ne sont pas si simples. En effet, parmi les mystères encore tenaces liés à la bataille hoplitique, on imagine mal, par exemple, comment un hoplite de la deuxième ligne pouvait, le cas échéant, remplacer son camarade posté devant lui et tomber mort. Parvenait-il à enjamber le cadavre dans la cohue que l'on imagine? De même, l'épée dont étaient munis les hoplites devait bien servir à quelque chose. Et est-ce qu'une fois passé le choc frontal, tout cela ne se terminait pas en réalité par un immense corps à corps? Et une série de duels, d'une certaine façon. Par ailleurs, il est frappant aussi de constater qu'au cours de la guerre du Péloponnèse, les batailles de Délion ou de Mantinée, qui sont décrites comme de véritables batailles hoplitiques, n'ont en réalité pas été des batailles totalement décisives pour le déroulement de la guerre, que d'ailleurs durant la guerre du Péloponnèse, et déjà durant la Deuxième Guerre Médique, c'est la guerre maritime, dont nous parlera demain Jean-Nicolas Corvisier, qui a eu un rôle tout aussi, voire même plus important à jouer que la bataille terrestre sur le déroulement de la guerre. Il est frappant de constater d'ailleurs que Hanson n'intègre pas du tout la guerre maritime dans son modèle occidental de la guerre. Enfin, la guerre du Péloponnèse et plus encore le IVe siècle sont aussi le moment où apparaissent, ou bien réapparaissent, et c'est toute la difficulté, d'autres fantassins que les fantassins lourds. Les fantassins légers, peltastes, archers, frondeurs, d'origines étrangères, voire barbares, en lien avec ou pas d'ailleurs le développement du mercenariat. Le IVe siècle est le moment également d'évolution même de la phalange, évolution qualitative, comme la phalange oblique thébaine, créée dans le premier tiers du IVe siècle par Pélopidas, ou alors évolution quantitative avec la phalange macédonienne, qui est l'œuvre de Philippe II de Macédoine à partir de 360, et qui est encore, en quelque sorte, une sorte de création d'une phalange qui serait donc, passerait d'une phalange lourde à une phalange semi-lourde. Si bien que la bataille de Chéronée de 338 n'offre pas le visage simple d'un choc entre deux phalanges hoplitiques, mais un faciès plus complexe où donc les Macédoniens l'emportent sur une coalition athéno-thébaine, mais où la cavalerie commandée par le tout jeune Alexandre tient un rôle essentiel de rupture de la ligne adverse par exemple et préfigure l'époque suivante, donc l'époque hellénistique. Donc sur tous ces points, de toute manière, Hanson est peu disert. Mais l'objection la plus sérieuse au modèle hansonien réside dans le fait qu'il ne parvient pas à déceler dans le monde grec les indices d'un type de guerre qu'il attribue exclusivement à un modèle oriental opposé au même modèle occidental. Il y a, vous l'avez compris, quelque chose de systématique dans la théorie de Hanson. Or, d'abord, il y a fort à parier que le concept de bataille décisive n'est pas un phénomène exclusivement grec, mais ça, je ne peux pas y répondre. Surtout, Hanson ne fait nullement mention de la notion très grecque d'autres types de guerres, par exemple la guerre que l'on appelle le polémos acheructos, c'est-à-dire le polémos sans déclaration de héros, ou le polémos aspondos, c'est-à-dire le polémos, la guerre qui ne donnera pas lieu à un armistice et donc à des traités par la suite. C'est-à-dire donc des guerres sans règles normales, guerres durant laquelle l'annihilation de l'ennemi pouvait être le but à atteindre. Alors on pense aux intéressants travaux de Pierre Hélinger sur les légendes phocidiennes autour de la divinité Artémis. Alors, ce sont des récits difficiles, un peu complexes, parce que ce sont des récits où se mêlent à la fois le mythe et l'histoire, et qui constituent un contrepoint à la guerre hoplitique. Il est là question de passer, par exemple, par le bûcher, l'ennemi, tout entier, les hommes, les femmes, les enfants, en créant une sorte d'ethnocide, si vous voulez, qui est difficilement d'ailleurs comparable avec l'époque contemporaine. De même, on sait l'existence de guerres rituelles, comme la guerre lélantine, ou la guerre pour le contrôle de la Tyréatide entre Argos et Sparte, où un élément religieux pouvait sans doute jouer un rôle. Mais ce sont des guerres d'époque archaïque ou tout début de l'époque classique. Donc des guerres qui fonctionnaient selon un autre modèle. Troisième temps de l'exposé, les dimensions idéologiques de la bataille hoplitique. C'est un point important, me semble-t-il, que Hanson sous-estime et qu'il faut prendre en compte. À la fois pour décrypter, à la fois pour ne pas se laisser piéger par ce que les Grecs nous racontent sur la guerre hoplitique, et puis pour voir un petit peu ce que, comme en termes donc de construction, cela implique. Alors, les historiens sensibles au modèle grec ont peut-être eu tendance à se laisser bercer par ce qu'il faut appeler l'idéologie du combat hoplitique. Alors, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux à distinguer ou plusieurs éléments. Alors, tout d'abord, la phalange apparaît à travers les sources littéraires grecques comme une société dans laquelle le sort des uns est intimement lié à celui des autres, une solidarité essentielle à la base du principe même de l'égalité, de la citoyenneté et pour certains même de la démocratie. De sorte que certains n'ont pas hésité à rapprocher l'apparition de cette formation de combat avec le développement des institutions civiques, de la notion de citoyen dans la Grèce au 7e siècle. De là vient en partie d'ailleurs la notion de révolution hoplitique qui aurait accompagné une autre révolution, c'est-à-dire la naissance de la cité grecque qui serait apparue tout d'un coup au début du 8e siècle. Alors, les choses ne sont pas si simples. Je ne prétends pas forcément les clarifier, mais je vous pose les questions en tout cas. S'il est manifeste que les hoplites ont relégué au second plan la cavalerie donc qui intervenait auparavant, qui était de nature aristocratique, ne serait-ce qu'à cause du coût d'entretien du cheval, on aurait tort d'identifier la phalange donc à la démocratie. Seuls les plus aisés furent en mesure de faire partie des hoplites. Les historiens admettent qu'il fallait être au moins un petit propriétaire pour être hoplite. À Athènes, par exemple, du coup, le sort de la communauté reposait sur une frange de la population qui devait représenter au 5e siècle environ le tiers au quart des citoyens. Sparte, par ailleurs, la cité dont la force militaire reposait le plus largement sur la phalange, possédait un régime oligarchique. Dans les autres cités, la phalange était loin de rassembler la totalité des citoyens. Elle était surtout la représentation sur le champ de bataille d'une catégorie sociale, celle qui pouvait s'armer à ses frais, la cité ne fournissant pas l'armement aux hoplites. Encore que là, il faut aussi voir des évolutions, sans doute, à partir du fin du 5e siècle, début du 4e siècle, où on peut voir dans certaines sources l'irruption d'une cité qui armerait à ses frais des soldats, bon, des citoyens soldats. Alors, qu'a représenté exactement la phalange du point de vue de la cité ? Alors, selon Victor Davis Hanson, en mettant face à face un nombre limité d'hommes protégés par un armement défensif efficace, les Grecs auraient trouvé le moyen de mettre fin à leurs différends en évitant les bains de sang que la petite taille des cités n'aurait pas pu supporter longtemps. Il est acquis que la phalange hoplitique fut un moyen historique de régler, de la manière à la fois la plus violente mais aussi la plus canalisée possible, les multiples conflits qui naissaient entre les cités grecques pour de sempiternels problèmes de frontières. Par contre, la défaite d'un camp, rarement décisive, n'était acceptée que sur le moment et préjugée presque toujours d'un espoir de revanche future. La phalange a aussi correspondu à une construction socio-économique de la cité. Elle a été un moyen pour la classe sociale des propriétaires citoyens de marquer sa suprématie politique, même si l'idéologie qui l'accompagnait se manifesta surtout à un moment où la prééminence des hoplites dans la guerre était contestée par d'autres types de fantassins, et surtout par la marine. Enfin, la phalange a indéniablement porté une vision de la cité, un fort sentiment d'appartenance à une communauté, une forme de patriotisme. Mais ce n'était peut-être pas le seul aspect donc, des combattants qui combattaient dans la phalange. On peut imaginer aussi que, par exemple, les marins avaient aussi donc, développé un sentiment de patriotisme par rapport à leur cité. Donc ce premier point de construction idéologique n'est pas simple, il est intéressant. Il y a une deuxième construction idéologique, me semble-t-il, autour de la phalange. C'est tout ce qui tourne autour de la bravoure hoplitique, incompatible avec l'idée de la défaite. Alors si l'on écoute Tirté au 7e siècle, il dit ceci, « Que chacun reste ferme sur ses jambes écartées, qu'il fixe ses pieds au sol, morde sa lèvre de ses dents, qu'il couvre ses cuisses et ses jambes, sa poitrine et ses épaules sous le creux de son large bouclier, qu'il brandisse de sa main sa terrible lance, qu'il agite sur sa tête l'aigrette effrayante. » Alors, à la suite de cet extrême et de tant d'autres, les Grecs, les auteurs grecs, mais aussi les contemporains, ont construit une thématique liée à l'idée de la belle mort. La belle mort, c'est celle qui est acquise au combat. Donc les modernes ont emboîté le pas en montrant que les valeurs héroïques qui se manifestaient dans des héros de l'Iliade tels par exemple Achille s'étaient d'une certaine manière diffusées chez tous les participants de la phalange et le but de la manœuvre en quelque sorte c'était de se montrer plein d'arrêtés, plein de valeurs militaires pour résister à l'ennemi. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que cette idéologie, on peut en voir des éléments de construction. Alors, ce n'est pas très clair non plus. Dans la seconde moitié du 5e siècle, par exemple, à Athènes, ce sont les oligarques eux-mêmes qui donc, sont mécontents de voir la domination militaire de la marine, des rameurs, la thalassocratie athénienne, et qui sans doute idéalisent le temps passé, forcément béni, où l'hoplite était synonyme de bravoure. Au IVe siècle, par exemple, il est frappant de constater qu'un auteur comme Platon veut croire en la supériorité morale de la guerre des fantassins sur la guerre des marins. Alors, il n'a sans doute pas manqué dans l'histoire grecque de héros qui préfèrent donc mourir sur place pour ne pas reculer devant l'ennemi. Alors, on pense à Léonidas, aux Thermopyles, bien sûr, mais le contrepoint intéressant, c'est, par exemple, dès le 7e siècle, le poète de Paros qui s'appelle Archiloque et qui dit crûment ceci, il dit « Mon bouclier fait aujourd'hui la gloire d'un barbare, mais je suis sauf. Alors, que m'importe mon vieux bouclier ?» La rispaspia, c'est-à-dire le fait de jeter son bouclier devant l'ennemi et donc de faire preuve de couardise, pense-t-on, à l'époque archaïque, ne donnait pas forcément l'occasion à une condamnation. Alors qu'à l'époque classique, notamment à Athènes au IVe siècle, dans la législation athénienne, il y a donc des motifs d'être condamné pour avoir abandonné son bouclier. Hanson, donc, lui, par rapport à cette deuxième thématique, m'a semblé un peu ambigu aux yeux de l'historien américain. Enfin, si vous voulez, Hanson a une façon de désenchanter le combat, qu'il en fait une sorte d'affaire de peur, de sueur, d'urine, de sang. Il désacralise un peu les choses et en même temps il prend peut-être un peu pour argent comptant toutes les reconstructions idéologiques liées à la bravoure au politique, parce que ce que vise aussi Hanson, c'est également de manière un peu anachronique défendre la bravoure de ses camarades morts au combat, puisqu'Hanson a participé aux événements du Vietnam, et dénoncer aussi le manque de reconnaissance dont ses amis furent l'objet de la part de la démocratie américaine. Il y a une troisième construction idéologique que je vais aborder très rapidement. C'est tout ce qui tourne autour des guerres, des règles de la guerre. On le voit, la bataille au politique est une bataille très réglée, très normée. Alors, la supériorité morale des Grecs viendrait des règles non écrites qui régissent le combat au politique, formant une sorte de code officieux de la guerre. Cette guerre au politique doit être solennellement déclarée, elle doit respecter certaines personnes, les héros, certaines périodes. Il y a d'ailleurs des trêves sacrées, la trêve olympique, mais ce n'est pas la seule. Elle doit épargner les populations civiles. Et après le combat, dont on aura exclu ou limité l'usage donc dans ce combat des armes non hoplitiques, on ne poursuit pas la phalange vaincue, on n'exécute pas les prisonniers. Si on fait des prisonniers, on les rend contre rançon ou contre un accord futur, et l'on remet les corps des ennemis tués à l'adversaire vaincu, et cette remise d'ailleurs vaut acceptation par l'ennemi de la défaite. À la suite des auteurs grecs, les historiens ont longtemps affecté de croire que la guerre en Grèce se limitait à une sorte de joute rituelle, une sorte d'agone dans lequel chaque individu, à l'intérieur du cadre strict de la phalange, devait montrer donc sa valeur, son arrêté. Alors il y a sans doute quelque chose de vrai là-dedans. D'ailleurs, Hanson manque clairement l'idée d'agone. La société grecque est une société agonistique, d'émulation. Hanson, qui désenchante un peu le combat, le voit moins comme cela. On a du mal à juger de ce qui poussait ces Grecs à affronter donc l'ennemi dans ces conditions-là. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que, si vous voulez, c'est une chose compliquée, c'est qu'on a pu déceler ce qu'on appelle un courant panhelléniste au IVe siècle, qui est probablement à l'origine, au IVe siècle, de la définition de la chevalerie, du code de la guerre de la Grèce archaïque. C'est-à-dire que c'est au IVe siècle qu'on retravaille toutes ces notions, et au IVe siècle, on dit que la vraie guerre, la guerre hoplitique, la seule vraie guerre, c'est celle qui, par exemple, n'utilise pas les armes de jet, flèches, javelots, frondes, qui sont des armes de lâche ou des armes de femme. On le fait sans doute peut-être d'ailleurs à un moment où, parce que ben justement on les utilise au IVe siècle, ces armes-là. Ça pose in fine un dernier point qui est complexe, qui est la question de la guerre totale. Quand est-ce qu'une guerre devient totale ? Ben lorsque finalement ces règles tacites ne sont plus respectées. Et en fait, ce fut souvent le cas dès l'Antiquité grecque. La thématique de la guerre totale, alors je ne vais pas jusqu'à parler de brutalisation de choses qui sont utilisées par les historiens d'époque contemporaine, mais ça ne date sans doute pas de la Première Guerre mondiale. Thucydide, par exemple, regrette dans le dialogue des Méliens cette guerre qui est une guerre totale. Hanson, qui a un peu raté ça dans le modèle occidental de la guerre, se rattrape avec un autre ouvrage que je n'ai pas eu complètement le temps de digérer encore, je l'avoue, qui est son ouvrage sur carnage et culture, où il semble défendre l'idée qu'il y a une continuité de la létalité occidentale dans la pensée occidentale. C'est donc la guerre occidentale, c'est une guerre violente. Mais ce qui est assez marrant, c'est que dans son livre, il pense à la guerre à Salamine, il ne pense pas donc à la guerre hoplitique, qu'il considère être toujours une guerre plutôt propre. Alors pour conclure sur toutes ces considérations, je conclurai simplement sur un point. En revenant aux sources, aux sources ou à la source de la guerre, à la source de la guerre écrite en tant qu'historien et non pas archéologue, c'est-à-dire Homère. Et ce qui me semble intéressant chez Homère, c'est que dans l'Iliade notamment, Homère développe en fait deux éthos, c'est-à-dire deux modes de combat, celui d'Achille et il l'oppose à celui d'Ulysse. Le premier, Achille, c'est l'esprit chevaleresque basé sur la confrontation du face-à-face. la bataille ouverte, l'utilisation de la force, parfois la force brute. Le second modèle, c'est donc la supériorité de la ruse, la tromperie, les moyens indirects, l'évitement de la bataille. Alors, pas le déni de la bataille, parce qu'il y a toujours le moment où il faut trouver le bon moment, ce qu'on appelle le kairos en grec, le moment favorable pour justement engager le combat et déchaîner la force physique. Donc voilà, il me semblait qu'on pouvait, s'il y a un modèle occidental de la guerre issu des Grecs, Homère est sans doute une matière à penser, peut-être plus importante que celle de la phalange hoplitique. Mais en même temps, voilà, c'est le point de vue grec, pas que celui-ci.
Merci, merci. Je croyais savoir, et puis vous m'avez démontré que je ne savais rien, que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. J'aime pas beaucoup l'idée de modèle occidental, mais en tant que concept, si vous voulez, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc je donne tout de suite la parole à la Corée, si je puis me permettre cette expression. Kisevitz, c'est, comment dire, c'est moins fréquent, dirons-nous, dans nos études comparatives. Vous avez la parole.
Bien, donc, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être un peu ambitieux, vu le temps qui m'a été imparti, qui est de parler de la guérilla ou des guérillas en Corée, peut-être pas des origines à nos jours, mais du moins du XIIIe siècle à nos jours. Dans une perspective plutôt globale que micro-tactique, et d'abord aussi dans une perspective lexicale, voyons d'abord la chronologie. Donc le royaume de Koryo, qui affronte entre autres les Mongols au XIIIe siècle, mais qui a affronté un certain nombre d'invasions de peuples du Nord au sens large qui venaient de Mandchourie. Je n'ai pas le temps de passer, de vous donner tous les détails malheureusement. Ensuite, le royaume de Joseon, donc, qui s'ancre dans la période médiévale, mais se termine hier, disons-nous. Et puis, dans sa dimension des invasions japonaises du XVIe siècle. Je tiens à souligner d'ailleurs que je ne parlerai que des guérillas en type de guerre ouverte et pas de jacquerie ou de mouvements sociaux. Ensuite, la lutte anticoloniale loyaliste, c'est toujours les Japonais qui sont en cause. Et puis, une lutte coloniale dite guerre d'indépendance, que j'appelle réformiste pour l'instant, qui s'ancre dans la lutte anticoloniale, mais participe également, par certains côtés, à eh bien, ce qu'on appelle généralement la guerre du Pacifique, même si ça peut commencer aussi en 37, voire en 31, dans la région, avec les incidents de Mandchourie, les maquis de la frange très indistincte du sud mandchourien et du nord coréen. Enfin, quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, les insurrections communistes, mais aussi les maquis moins connus anticommunistes, donc en Corée du Sud, mouvement communiste, ou d'obédience réformiste idéaliste, et maquis anticommunistes sous l'égide de l'armée de l'ONU en Corée du Nord. Donc j'utilise des sources coréennes, anglaises, françaises, etc. Alors quelques définitions. Qu'est-ce qu'une guérilla ? C'est une guerre artificieuse et subtile, sans rencontre en plein champ. C'est une guerre guerroyante, fluctuante, dirons-nous, qui n'est pas la petite guerre, puisque la petite guerre se dirait guerrita en espagnol, sauf erreur. On pourra revenir sur les définitions plus tard. La petite guerre étant une guerre de coups de main et d'embuscade menée par des troupes régulières, je parle sous votre contrôle, certainement des spécialistes dans la salle, du fort au fort ou bien du faible au fort, selon le cas. Et enfin, la guerre de partisans ou guérilla, type de guerre asymétrique, visant à lutter contre un occupant ou à renverser un tyran, qui a pris, avec le terme de guerre populaire ou autre, une forte connotation idéologique au cours du XXe siècle. Passons maintenant donc à la Corée. La Corée a emprunté plusieurs termes, enfin, je dirais presque tous les termes, puisqu'on utilise guérilla-jeon, guérilla, qui est très utilisé en Corée du Sud, paltisan, qui est également un emprunt à l'Occident, et puis yugyok-jeon, qui signifierait en gros guerre d'attaque mobile, et qui provient en fait de termes entre le... Je ne sais pas si le japonais utilise ce terme, mais en tout cas, en chinois, c'est le cas. Alors, les résistances anti-mongoles. Les Mongols, donc, ont conquis, au début du... Je n'en reviens pas là-dessus, au début du XIIIe siècle, la Chine du Nord et la Mandchourie. Et à la suite de relations diplomatiques qui sont nouées très tôt entre Mongols et Coréens, face à un ennemi commun qui est le peuple mandchourien des Khitans, dont une partie s'est soumise aux Mongols, mais pas la totalité, la frange de la Mandchourie, on voit ici que, je ne sais pas si, oui, donc ici, la vallée de l'Amnokgang ou Yalu est ici. Et ici, de l'autre côté, on a le Tumangang. Donc la frontière ici, plus ou moins fortifiée, est bien en deçà de la frontière contemporaine. Et cette région ici est occupée par des peuples donc, de Tungus et en la Mandchourie méridionale par des peuples qu'on appelle les Khitans. Et c'est un groupe de Khitans qui va faire dissidence, s'opposer aux Mongols, qui va pénétrer en Corée. Les Mongols vont les poursuivre et vont nouer des relations de franche amitié associées à une fraternité d'armes dans les premières années du XIIIe siècle, vers 1218-1219, jusqu'à 1224, où un ambassadeur mongol va être piteusement assassiné au retour de Corée, dans une zone prétendument contrôlée par les Coréens, qui, eux, ne possèdent pas beaucoup de troupes, ne sont pas un peuple guerrier, sont dominés par une dictature militaire. Le roi est une marionnette. Et en fait, le gouvernement central ne souhaite pas fortifier la frontière avec des troupes conséquentes, de peur de se créer une concurrence. Et donc, à partir de 1231, les Mongols vont revenir. Les relations avaient été rompues, les Mongols vont revenir, et de 1231 à 1259, les Mongols vont multiplier les campagnes d'invasion. Et à terme, pratiquement tout le pays, vous voyez les flèches selon les différentes années, tout le pays va être parcouru par des chevauchées mongoles. Il y aura aussi des trêves, des négociations, je ne peux pas m'apesantir là-dessus, mais à cette occasion, donc, les Coréens vont utiliser une tactique de retrait. Le gouvernement va être transféré en 1232 sur une île qui se trouve à peu près ici, et pratiquement toute la population va devoir se réfugier, soit dans les montagnes et dans les refuges de montagne, soit sur des îles littorales. Il y en a plus de 3000, certaines assez grandes ici. Jeju-do, ici, c'est trop loin, et donc toutes ces petites îles, sachant que ces régions, ici, en général, ont été épargnées par les chevauchées mongoles, mais Gyeongju a été atteinte quand même par les Mongols. La Corée, à l'époque, c'est à peu près l'Italie sans la plaine du Pô. Et dans les premières années, on a par exemple, en 1235-1238, malheureusement, nos sources sont très faibles. Elles ont été rédigées bien plus tard, au XVe siècle, par des lettrés confucéens qui ne s'intéressaient pas particulièrement aux affaires militaires et qui, en plus, ont donné mention des actions de guérilla qui ont fonctionné, c'est-à-dire qui ont été victorieuses. Chaque fois qu'un parti de paysans encadré par des moines guerriers ou par quelques aristocrates confucéens ou autres qui avaient pris les armes et qui ont été massacrés, nous n'avons pas les traces. Donc des régions qui sont intéressantes par contre, ici la marche militaire du Nord qui contient des forteresses, et puis le Finistère coréen, la province de Hwanghae-do, sur la mer Jaune, région de Kaegyeong, Kaegyeong étant la capitale à l'époque, aujourd'hui Kaesong en Corée du Nord, aussi est intéressante, puisque, étant donné que c'est le siège de la capitale et que la capitale du temps de guerre est sur l'île que vous voyez juste dessous ici, elle a une forte connotation symbolique et les Mongols l'ont spécifiquement ravagée. Et puis, un peu au sud, dans le Chungcheongdo, ici, Namgyeon étant Séoul aujourd'hui. Je passe maintenant aux guérillas anti-japonaises du XVIe siècle. Progression des troupes s'est faite à l'inverse des Mongols, partie du Japon vers le nord, y compris avec des incursions dans l'actuelle province maritime russe. Il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement coréen est très confucéen, pacifiste, et que, en ce temps de péril national, quand l'alarme a retenti, on a pu trouver, je crois, dans tout le pays, dans les premières semaines, 300 militaires. Et encore, tous n'avaient pas leurs armes. Enfin, c'était la grande, pour ainsi dire, la panique. Ça s'est considérablement aggravé avec la prise donc de Séoul, puis la montée sur Pyongyang, puis l'arrivée des Chinois, etc. Mais donc, l'essentiel des combats au début sont le fait d'armées de moines soldats, encore une fois, de paysans qui ont pris leurs outils agricoles. On peut aussi couper des bambous, c'est très efficace, les lances en bambou, les houes, etc. Et puis, j'aurais pu en parler peut-être pour une autre fois, il y a la fameuse invention du bateau tortue, premier cuirassé, qui va notamment dans les petites îles de la mer dite du Sud, ici, mener des actions soit de harcèlement, soit des batailles navales complètes dans cette zone. Mais principalement, on a le Chollado, qui est une zone très intéressante. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, des zones qui sont ici toutes des zones montagneuses, pratiquement. La Corée, c'est une succession de montagnes, 70% de montagnes, 75% selon certains calculs. Et la Corée, ben, ça se fait à pied. À l'époque, on a encore des forêts. La cavalerie, le Mongol qui se sont un peu cassés les dents, à part les grands axes, la cavalerie n'est pas à l'aise en Corée. Époque plus contemporaine, on appelle cette guerre les Eubyong-Jongjang. Il faut savoir qu'après la guerre russo-japonaise, la Corée a été mise sous tutelle japonaise et que le traité n'a jamais été signé par le roi. On a obligé le grand chambellan à poser son sceau, le sceau du roi, mais ça n'a jamais été ratifié solennellement par le roi. Et malgré tout, donc, la Corée est sous tutelle japonaise et le roi, qui ne veut pas se laisser faire, envoie une délégation à La Haye, ce qui contrevient au traité, normalement. Donc on le force à abdiquer et on va dissoudre l'armée coréenne, qui comporte en tout et pour tout deux régiments. Mais l'un des régiments est en manœuvre, ça tombe bien. Il y a deux jours de combat peut-être à Séoul, mais l'autre est en manœuvre, il est ailleurs, et puis il prend le maquis avec armée bagages. Et il est rejoint par toute une série de, là aussi, de patriotes, de paysans, de fonctionnaires, de lettrés qui ont laissé de très beaux poèmes, quelques moines, mais surtout, le Japon commet une gravissime erreur. Il interdit, à la suite des actions de guérilla, c'est normal, de posséder de la poudre et des armes, y compris les mousquets, archaïques mais efficaces, des chasseurs de tigres qui forcément rejoignent le maquis. Et les chasseurs de tigres sont des tireurs d'élite, puisque avec un tigre, quand vous avez un mousquet, vous ne pouvez pas rater votre cible. Vous devez le tuer absolument, parce que sinon, vous finissez mangé. Donc, voilà le contexte. Et là encore, c'est très intéressant pour moi, on voit la province du Hwanghae-do, ici, ce Finistère coréen, qui malheureusement est en Corée du Nord, que je n'ai pas visité. Ici, les montagnes, il y a des petites poches ici, dans les monts Chili, mais cette région, en même temps, est très proche du Japon. Et puis le Chollado, qui là aussi, est une région très intéressante, puisque dans les guerres d'unification de la Corée vers le 5e, 7e siècle de notre ère, eh bien, c'est une région qui a été difficile à conquérir dans l'unification de la Corée par le royaume de Shilla, mais aussi le royaume de Koryo. Cette guerre des milices, parce que je traduis Eubion, on y reviendra par milice, en fait, je n'ai pas voulu montrer le nombre de combattants. On a des estimations du nombre de combattants, il y en avait plusieurs dizaines de milliers, mais on voit très bien que les pics sont 1908-1909. Certaines de ces armées vont commettre l'erreur irréparable d'affronter les Japonais en race campagne, avec les conséquences que l'on peut imaginer face à une armée moderne. Et à partir de 1910, on est dans du résiduel. La fin étant en 1914, mais c'est vraiment un épiphénomène en 1914. Et à partir de là, il y a une pause, la Corée est presque pacifiée. Il y a des mouvements d'intellectuels qui partent en exil, il y a un certain nombre d'éléments qui se font, et puis on se souvient que 1914, en Europe, se passe un grand conflit qui se termine en 1919 par une conférence de la paix, et par aussi, juste avant, la publication par le président Wilson d'un certain nombre de points dans lesquels les Coréens ne sont pas plus sourds que d'autres. Ils ont relevé l'autodétermination des peuples. Ils se disent, pourquoi pas nous ? Or, en 1919, j'anticipe un peu, une délégation est envoyée à Paris à la suite, pour participer à la conférence de la paix, à la suite des obsèques, enfin, de la mort du roi de Corée, qu'on prétend avoir été empoisonné. Et il y a un grand mouvement pacifiste qui, dit-on, aurait aussi inspiré Gandhi, qui aurait lu la presse anglaise dans son exil en Afrique du Sud. Et donc ce mouvement, c'est une déclaration d'indépendance lue à Séoul et une grande manifestation avec les enfants des écoles et des collèges, les femmes, les vieux, les jeunes, enfin tous ceux qui veulent la Corée indépendante et qui crient « Vive la Corée !» dans les rues, sous le nez des colons japonais, déjà, il y en a des résidents japonais, dont certains se croient menacés et commencent à sabrer, parce que même si on est civil, certains ont des sabres, commencent à sabrer et à battre les Coréens qui sont pacifiques. Puis la police s'en mêle, et puis on tire dans le tas, et tout dégénère, et la Corée s'embrase, et tous les mouvements gagnent, de contestation gagnent le reste du pays. La principale conséquence, indépendamment d'un allègement partiel de la tutelle japonaise, parce qu'il fallait quand même faire des concessions pour, après ça, soit il fallait détruire, soit il fallait faire quelques concessions, c'est que les patriotes coréens partent soit en exil, soit reprennent le maquis. Et on a, par exemple, un certain Hong Bong-do qui est un héros de la guérilla, mais c'est très drôle parce que vous le voyez avec, pour ceux qui connaissent, une magnifique Budionovka à étoile façon guerre civile russe, en plein dans le musée national de Séoul, avec patriotes coréens. Sauf que c'est un patriote aussi communiste de la bonne faction qui a animé une guérilla anti-japonaise, certes, mais on oublie de dire surtout à Séoul qu'il est communiste. C'est très intéressant d'aller dans ces musées nationalistes où la vue est très partielle. Toujours est-il que donc Hong Bomdo était un ancien de cette guerre des milices. Et il n'était pas le seul, sans doute. Donc on avait quand même des experts de la guérilla qui étaient des gens aguerris, qui s'étaient fait oublier et qui reprennent le maquis. Et donc, à partir de 1920, la Corée étant pacifiée par la disparition de ses milices et occupée directement par les troupes japonaises, bien, soit on part en exil en Chine, loin, on se retrouve à Shanghai, pourquoi pas dans la concession française, ou bien on part en Mandchourie, qui est une terre à peu près vierge, libre, et on s'installe dans la zone intermédiaire dite Kando, Tiandao en chinois, qui n'est pas vraiment administrée par la Chine, et où les maquis, communistes ou non, vont fleurir jusqu'à ce que les Japonais s'emparent justement de la Mandchourie. Mais il y aura toujours des petites poches de résistance coréenne. Il y aura 7000 guerriers communistes dans le sud mandchourien à un moment, et puis progressivement, ils seront refoulés vers la frontière de la Sibérie. La guerre de Corée, on reviendra sur ce point, parce que 50-53 est peut-être une vision complètement fausse dès lors qu'on s'occupe de la guérilla. Et puis, quelques stratégies alternatives, drôle de guerre, seconde guerre de Corée, si nous avons le temps. La guerre de Corée, j'ai mis 49-53, c'est une possibilité parmi d'autres. Au 15 décembre 1949, vous avez donc ces poches. Poches qui sont des zones d'activité, adossées sur les montagnes, les Chilisan ici, les monts Tebek ici, et puis l'Odessan, juste à la frontière avec la Corée du Nord, qui infiltre des conseillers techniques en profitant de divers incidents de frontières. Ça va orchestrer à une époque où ce sont bien évidemment les Nord-Coréens les méchants dans beaucoup de textes sud-coréens, même si on sait que les Sud-Coréens ont fait aussi beaucoup d'incidents à la même époque, soutenant cela par la propagande anticommuniste de Lee Sung-man. Et les Nord-Coréens le lui rendaient bien, puisqu'on l'appelle le traître vendu, le vendu, etc. Donc, au 15 décembre 1949, des effectifs relativement modestes, moins d'un millier d'hommes probablement, qui sont confinés dans ces zones et qui sont quasiment sous contrôle, sauf la nuit. Comme d'habitude, la nuit appartient à la Corée du Nord, selon une des expressions qui était en vigueur à l'époque. En même temps, je n'en parle pas pour cette fois ici. À Jeju-do s'est développée une guérilla fondée sur deux choses principales, le mécontentement, la crise économique, le chômage dû à la rupture brutale en 1945 des échanges avec le Japon, puisque du jour au lendemain, la complémentarité économique Corée-Japon disparaît, et puis par une série de maladresses gouvernementales qui sont liées à, en partie, la maladresse du gouvernement de Séoul, gouvernement coréen, mais qui plonge ses racines dans des maladresses et un amateurisme effrayant de la part des Américains dans leur gestion de la Corée et l'éradication des législations japonaises, notamment sur le grain. Mais le mécontentement populaire donne lieu, disons, à des défilés pacifiques. La police, qui n'est pas formée, tire dans le tas. Et on a un effet d'escalade qui débouche sur une insurrection corrélée aux élections qui vont mettre au pouvoir Lee Sung-man en 1948. Je reviens juste en arrière. Au moment où la guerre de Corée commence, sauf la poche de Poussan entre Taegu, ici, et Poussan, ici, échappe à la mainmise communiste. Donc les maquis sortent des montagnes et font leur jonction avec l'orthodoxie nord-coréenne, avec quelques désillusions parfois. Et lorsque MacArthur lance son opération à Incheon en septembre 1950, l'armée du Nord est piégée, elle se débande et pour partie, elle disparaît dans les maquis. Et elle réalimente les maquis, qui deviennent deux groupes de gens qui étaient des suspects de communisme, qui avaient été torturés, malmenés, ou qui étaient en conflit avec le propriétaire local, etc. On trouve cette fois de vrais professionnels, de vrais militaires parfois dans les maquis. Et les maquis seront éradiqués en 1952 à peu près, au moment où le front sur le 38e parallèle sera à peu près stabilisé. Moins connues sont les opérations qui ont été menées en Corée du Nord par des unités très réduites appartenant à ce qu'on appelle l'UNPIC, United Nations Partisan Infantry in Korea, qui regroupait, comme vous le voyez, toute une série de micro-organismes ou sections locales allant de la meute de loup à la base Léopard, et qui ont eu sous leurs ordres jusqu'à 20 000 partisans, et notamment dans cette province ici, Yuhan-Haedo. Haeju, ici, c'était en limite, c'était en Corée du Sud, c'est au sud du 38e parallèle, première manière. Le front va se stabiliser ici par la suite. Et ici, dans les îles, notamment Kanhwado, qui appartient toujours à la Corée du Sud, eh bien, il y avait des bases de guérillas anticommunistes qui, depuis toutes ces îles littorales occupées, allaient mener ces raids à l'intérieur de la Corée. Les opérations sur la côte orientale étant tout à fait réduites et minimes dans ce type d'opération, mais il faut savoir qu'il y a au moins une ou deux divisions communistes, dont une division d'élite, qui ont été obligées d'être déplacées, retirées du front principal pour aller s'occuper de l'action de ces guérillas. Et ce qui est intéressant pour la lecture, c'est pour ça que je pense que le regard dans le long terme est intéressant, c'est que, donc ici, nous avons Baekgyeongdo ici. Ici, il y a d'autres îles qui n'apparaissent pas. C'est que aujourd'hui, tous les conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans les eaux de la mer Jaune, qui sont notamment des conflits de pêche, mais qui aussi concernent un certain nombre de vedettes rapides, de garde-côtes, etc., sont concentrés autour de Baekgyeongdo et des îles, donc de la pointe, juste au sud de la pointe du Hwanghae-do, et à Yongpyeong-do également. Or, ce sont ces mêmes îles, ces cinq îles qui posent problème, qui étaient les bases principales de la guérilla et qui, dans un cadre d'accord d'armistice fondé sur l'outil possidetis juris, fondé sur la possession du terrain à la date, par les différentes armées à la date de l'armistice, que l'on a recalculé ici une northern limit line, une zone limite nord, qui fait office aujourd'hui de frontière, alors que, comme vous le voyez ici, la Corée du Nord réclame une zone de sécurité de 50 milles nautiques, qui lui permettrait de aussi pouvoir utiliser le port de Haeju et sortir, parce que c'est une zone infecte, les eaux sont très resserrées, il y a des écueils et des hauts fonds. Donc, pour pouvoir naviguer plus au large, les Nord-Coréens seraient obligés de passer au sud, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Corée du Nord ne remet pas en cause du tout la possession par la Corée du Sud des fameuses îles, mais qu'elle leur propose des, ce qui n'est pas acceptable, des chenaux de navigation. Et en plus, ce sont des eaux à très forte valeur halieutique. Donc il y a un enjeu économique qui n'est pas négligeable également. Alors reprenons l'activité des guerriers en Corée à l'époque contemporaine. Donc, nous avons, dès 1948, l'insurrection de Jeju-do, des troubles sociaux. L'insurrection de Jeju-do demande des renforts de police et de gendarmerie. Or, une partie de la gendarmerie est noyautée par, disons, des gens réformistes qui veulent plus de justice sociale, qui se sont peut-être réfugiés dans l'armée pour des raisons économiques. Et l'un des régiments va se révolter, refuser d'aller tuer la population de Jeju-do et passer dans le maquis avec une traînée sanglante qui nécessite le renfort de l'armée américaine dans l'extrême sud de la Corée, et qui vont alimenter les maquis de 49 également. Il faut savoir que le fameux général Park, le père de l'actuelle présidente de Corée du Sud, a été inquiété pour activité socialisante, gauchisante, en 1948. Il y a les troubles sociaux habituels, et puis il y a cette guerre frontalière de 49 dont j'ai parlé. Puis, le 25 juin, nous avons la guerre de Corée qui éclate en tant que guerre civile interétatique entre deux États non légitimes qui, eux, par contre, légitimement, vont tenter une unification forcée par les armes. Mais aucun des deux n'est plus légitime que l'autre, sauf que la Corée du Sud, on dira, est plus légitime parce qu'il y a eu des élections et qu'elle a été reconnue par l'ONU est validée. Mais la Corée du Nord, pourquoi pas la Corée du Nord ? Et d'ailleurs, la Corée du Nord, à l'époque de sa fondation, a pour capitale Séoul, même si elle ne réside pas à Séoul. Ensuite, donc, la phase internationale de la guerre de Corée, la guérilla au Sud, qui s'arrête dans sa phase la plus extrême en 1952, dans la phase active en 1954, mais dont les derniers partisans seront arrêtés ou se rendront dans les années 60, souvent épuisés, morts de faim ou à moitié, etc. Et puis, donc, une guérilla de l'UNPI qui se termine probablement en 1954 dans la zone du Hwanghae-do, qui est aussi une zone agricole importante, marquée par des rizières, et donc peut-être un reste d'organisation sociale différente. Je n'ai pas exploré cette voie. Les principaux termes, cette fois donc relatifs aux unités de guérilla, sont assez intéressants parce qu'on a le terme de Pyeolcho, qui est souvent associé à un nom de ville ou de lieu, donc Dongju, Pyeolcho, par exemple, qui sont des unités de guérilla. Mais à côté, ça peut être aussi, certains esclaves patriotes se sont organisés en unités de ce type, mais aussi les troupes régulières, donc du clan Che, qui est le clan des ministres militaires de l'époque, avec une Ya Pyeolcho ou une Ma Pyeolcho, que je traduirai moi par le guet de nuit et la garde à cheval, pour ne pas tomber dans les erreurs américaines qui parlent de patrouille, ce qui est un peu curieux. Auquel cas, le Ma Pyeolcho serait The Horse Guards, ou the Horse Watch. Les Eubion, que l'on traduit en anglais par Righteous Armies, moi je traduis milice, je parle du caractère de la composition, qui est en général indépendant et spontané, même si ce sont des patriotes qui les composent, et on voit la durée du XVIe siècle au XXe siècle de l'appellation. Avec l'occupation japonaise et les mouvements d'indépendance, il y a le Deil Hangzhen, ou Hangzheng selon les cas, qui est une guerre de résistance anti-japonaise, qui est un terme assez nouveau, mais surtout le Dongnipundong, mouvement d'indépendance, qui reconnaissait donc le fait colonial. Et puis il y a aussi une Kwangbok-gun, qui est l'armée de la restauration nationale, qui est une armée régulière sous uniforme et sous direction stratégique chinoise, proche du Kuomintang, et qui combattra dans les zones de l'arrière et dans des combats périphériques jusqu'en Birmanie, du côté de Kohima Imphal à l'époque en 1942. La République de Corée, on utilise donc Yugyokde, Palchisan, etc., avec des numéros d'unités, des secteurs, etc. Il n'y a pas de terme qui s'impose. Je sais que Palchisan et surtout Gerillajeon sont les plus utilisés en Corée du Sud de nos jours. Quand on fait Yugyokde, ça fait déjà intellectuel. C'est un peu plus spécial pour certains, même officiers sud-coréens. Alors, quant aux moyens d'action, les actions sont locales, limitées, avec des bandes extrêmement isolées. On a 200 personnes, c'est un groupe très, très important, qui peuvent rejoindre et augmenter les troupes régulières qui vont être formées pendant les guerres du XVIe siècle et les troupes chinoises qui vont arriver, seront envoyées par la Chine des Ming. Ce sont vraiment de micro-unités attachées à un terroir, attachées à quelques collines, attachées à quelques villages. La guerre des milices loyalistes est très intéressante parce que j'ai mis 1910, j'aurais pu mettre 1914, mais la fin étant de peu d'intensité. Là aussi, la question de la chronologie est délicate, le séquençage est délicat. Il faut savoir que dans certains cas, ces milices ont aussi de l'armement moderne, notamment le fusil à répétition Lewis, qui était utilisé par les Britanniques et pendant la guerre de 14 ensuite, et qui est en général qualifié de mortier par les auteurs des livres. Donc, la guerre d'indépendance aussi, en Mandchourie, je parlais des communistes tout à l'heure, c'est là que va s'imposer, à un moment donné, le fameux Kim Il-sung, qui va reprendre à son compte un certain nombre de toute l'aura d'un vieux chef de partisans disparu dans des conditions mal connues, et qui va dire « Non, c'est moi. Oui, j'étais très jeune, mais c'est moi. » Et donc, il y a la légende de la précocité et du génie, bien évidemment, du général de la guérilla Kim Il-sung, qui se développe à ce moment-là, mais plutôt, lui, dans les années 30. Et donc, pardon pour la faute à conseiller technique, donc 48-54, disons, une guerre avec quelque chose de beaucoup plus connu, de beaucoup plus classique, dirons-nous. Alors, quelques réflexions, et puis j'ai terminé. En cas de péril national, les patriotes prennent les armes, ils se dressent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, en quelque sorte. Ce sont les milices Eubion, ils sont autonomes et spontanés. Dans la phase ancienne, les partisans souhaitent le maintien du régime. Dans la phase contemporaine, au contraire, c'est plutôt le renversement du régime en place ou le départ de certains dirigeants. Et de 48 à 1954 ou plus tard, c'est en vue de l'unification. Quelques héritages de la guérilla, donc on a parlé de la Northern Limit Line et de la mer Jaune. Il y aurait 150 000 hommes des forces spéciales en Corée du Nord. Parfois on parle d'infanterie légère, mais les choses ne sont pas claires. Je n'ai pas trouvé de choses très claires dans la terminologie américaine. Il y a, on le voit, sur beaucoup de slogans en Corée du Nord, l'esprit du Pektusan, c'est-à-dire l'esprit des premiers guerriers capables de vivre sur rien et à la pureté idéologique sans faille. Et puis, il y a ces diverses actions de harcèlement et pics de tension sur la DMZ ou ailleurs. Et puis, encore, et ça, on entre dans le 21e siècle et dans les nouvelles formes de guerre, il y aurait les fameuses attaques de hackers de l'armée de Pyongyang, les 3000 hackers de Pyongyang, qui, paraît-il, auraient piraté le site des grandes compagnies, y compris de télévision ou de production de films américaines. Voilà.
Merci pour ce tableau très complet sur un objet dont j'ignorais tout jusqu'à ce matin. Alors, nous avons un petit quart d'heure ou un quart d'heure là pour poser des questions aux différents intervenants. Qui veut Monsieur Contamine.
Et moi aussi, j'ai été impressionné par ce tableau très, très large, très vaste, parce qu'il y a deux dimensions, me semble-t-il. D'abord, les formes de guerre, cela ressortit à l'art militaire, et d'autre part, l'environnement politique. La question que je voudrais vous poser, c'est, j'ai été frappé par le fait qu'au début de votre exposé, vous avez employé l'expression de guerre guerriante. Guerre guerriante. Et je pensais que la guerre guerriante, la formule se rencontre au Moyen-Âge, un petit nombre de cas, etc. Et donc j'ai été étonné de voir que vous l'employez également pour désigner un type de guérilla dans un domaine géographique et à une époque assez différente. Voilà. Donc, comment est-ce que la guerre guérillante vous est venue à l'esprit ? J'ai une curiosité de ma part.
Oui, il se trouve donc que j'ai, enfin mes recherches, puisque j'ai travaillé sur les campagnes mongoles en Corée et la réponse coréenne à ces invasions, eh bien j'ai un peu cherché sur le champ. Et puis j'ai eu la chance de participer pendant un an et demi au séminaire sur la guérilla qui était animé à l'Institut français d'analyse stratégique par Thierry Wildman et François Géré, et dans lequel, justement, on a eu de très fructueuses conversations sur ce que devait être la guérilla, puisque c'était le thème de l'époque. Et il ressort que grâce à une collègue hispanophone, la petite guerre, c'est guérita, donc guérilla ne peut pas être la petite guerre. Et donc, on a découvert que, probablement, guérilla, c'était la guerre guerréante, tout simplement. Et c'est la trace espagnole, qui, et non pas italienne, qui vient nous éclairer sur ce point, et donc qui n'est pas forcément la petite guerre, puisque la petite guerre peut être menée par des armées tout à fait régulières dans un autre type, dans un combat relativement similaire, mais qui n'est peut-être pas dans le même contexte tout à fait.
Employé, disons, au XVe siècle, au XVIe éventuellement, il est possible, dans le domaine linguistique français, il est possible que cela vienne, sinon de l'italien, du moins de l'espagnol. Donc, voilà. Merci.
Oui, M. Corvisier.
Permettez-vous, Monsieur le Président, plus qu'une question précise, une réaction des idées que je soumets à votre critique qui me sont venues en écoutant d'abord l'exposé de mon ami et collègue Jean-François Couvagne et puis aussi les autres exposés. Je partage tout à fait le point de vue de Jean-François Couvagne. Si vous voulez, le seul tout petit point de détail que je trouverais à redire, c'est que comme elle comporte obligatoirement une hanche, il ne s'agit pas d'une flûte, mais d'un hautbois pour rythmer. C'est la preuve que je suis d'accord avec lui pour tout. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, ce qui est en cause, c'est le besoin d'une image de la guerre. En réalité, ce que nous avons, grâce à Victor Davis Hanson et grâce à cette manière de percevoir la guerre à partir des historiens, dont Jean-Christophe Couvagne nous a montré que ça s'était fait progressivement, c'est une image de la guerre. Alors l'image de la guerre, ça n'est pas la guerre, mais l'image de la guerre, elle est absolument indispensable, d'abord pour que les gens qui sont allés au casse-pipe y retournent, et ensuite pour faire en sorte que d'autres qui n'y sont pas allés aient dans l'idée quand même d'y aller. Ça passe par les médias, ça passe par les historiens, ça passe par les récits de guerre, et la manière dont on voit la guerre. Alors, le duel est beaucoup plus valorisant que la participation en foule à la guerre. CF, le monde homérique, par rapport au combat de masse. On peut peut-être se poser la question, dans le monde précolombien, où l'on commence à montrer des duels, est-ce que ça veut dire, pour cela, je ne suis pas compétent, je pose la question, qu'il n'y avait pas en même temps des combats de masse? Et d'autre part, la bataille est beaucoup plus valorisante que le simple combat. D'où cet accent peut-être que l'on met à la bataille, et d'où ce mythe de la réalité de la bataille et du caractère décisif de la bataille. Avant chaque bataille, on racontera toujours que cette bataille est décisive. Or, y a-t-il beaucoup de batailles réellement décisives dans l'histoire ? Relativement peu. Ce problème, je le sentais en écoutant Jean-Christophe Couvaigne disant que, finalement, la bataille décisive sur Terre, il y en avait peu, mais il devait y en avoir sur mer. Et sans jeter un petit peu, disons... Sans fusiller un petit peu ce que je dirais demain, il n'y a pas non plus de véritable bataille décisive sur mer. C'est qu'en réalité, la bataille, c'est un très gros risque qu'en général, on ne veut pas courir. Deux phrases qui montrent, disons, les deux aspects de cette bataille. Lord Jellicoe, en 1914, qui commandait l'ensemble de la flotte anglaise, « Je suis le seul homme capable de perdre la guerre en un jour ». Et ensuite, je reviens à mon domaine, à moi, Epaminondas, se décidant finalement à la bataille, nous disent les textes, que parce que depuis 2 ans, la guerre existait, il la commandait, et on lui reprocherait de n'avoir rien fait de spécifique, et ça a été la bataille de Leuctre. Alors, par conséquent, ce que je crois, c'est que il y a la bataille, mais la bataille doit être jugée dans l'ensemble de la guerre. L'ensemble de la guerre, qu'est-ce que c'est ? Selon les ordres qui étaient les ordres types donnés aux stratèges athéniens, et pour le reste, faire le plus de mal possible à l'ennemi. Et la bataille, eh bien, vous la trouvez à certains moments, et à d'autres moments, on évite la bataille. Lors d'une série de journées d'études sur la petite guerre que j'avais organisée, j'étais arrivé à risquer la conclusion qu'il y avait un balancement dans l'histoire entre la petite guerre et la bataille, c'est-à-dire que les excès de l'une entraînaient un retour à l'autre et les excès de l'autre entraînaient un retour à l'une. Ce sont quelques réflexions que je voudrais simplement vous soumettre.
Sont intéressantes. Il y a une dimension foucauldienne dans votre propos.
Un troisième aspect, si vous voulez, oui. Parce qu'il est souvent omis. Et notamment, disons, ce magnifique ouvrage de Duby, La Dimanche de Bouvines, il y a un aspect qui n'apparaît pas, qui est pourtant extrêmement important, c'est le siège. Le siège. Bien donc, sûr. Il y a la guérilla, c'est une affaire entendue, il y a la bataille, avec cet aspect de duel, de dramaturgie, en même temps cette dramaturgie, mais il y a également le siège. Et la guerre que je connais, la guerre médiévale, c'est une guerre. Il faudrait parler de l'histoire siège tout autant de l'histoire bataille.
Bien entendu, et c'est tout le rapport qui existe.
Vivre entre en siège mode, et blocus. Vivre en mode obsidional.
Oui. Oui. Et ce rapport entre le siège et le blocus. Mais là, il y a probablement d'autres choses à dire, et je ne veux pas monopoliser la parole.
C'est un complément à ce commentaire, parce que Monsieur Couvaigne, il a, à mon avis, justement, prôné un retour aux sources en indiquant dans Achille et Ulysse les deux éthos qui caractérisent jusqu'à présent dans la société de l'Occident. C'est-à-dire, il est vrai qu'Achille, c'est la force, le face-à-face, et que de l'autre côté, Ulysse, c'est surtout la ruse, c'est l'inventeur de la première machine de guerre, le cheval de Troie, ne l'oublions pas. Or, mais dans les deux cas, justement, la place centrale est tenue par le duel, y compris dans le cas d'Ulysse, lorsqu'il rencontre Polyphème dans sa grotte. C'est un duel qui ne voit que les deux protagonistes, avec sur le fond les compagnons d'Ulysse et de l'autre côté les autres cyclopes qui peut-être ne sont pas des bergers nulle part, on le dit dans l'Odyssée, comme Polyphème, mais ce qui est un tournant décisif dans l'histoire des Grecs et du Nostos d'Ulysse. C'est un tournant décisif parce que même si, bon, il y a une arme qui est utilisée, c'est la branche en essence d'olivier qui est transformée en arme pour aveugler Polyphème, mais c'est vrai que à la ruse d'Ulysse ne s'opposent que les capacités prophétiques de Polyphème. N'oublions pas que c'est le premier à avoir prophétisé le destin d'Ulysse et de ses compagnons, tous morts, que lui a revenu chez lui et en trouvant des tragédies chez lui, en les provoquant même, et qui sera perfectionné cette prophétie par Tirésias dans l'Hadès. Alors, ce que je vais dire, c'est que l'importance du duel que vous avez prôné, mais aussi, à mon avis, les paradigmes qui sont tellement importants, comme dans le cas de cette rencontre entre Ulysse et Polyphème, que même si on n'utilise pas d'armes, c'est le duel qui décide du sort de Ulysse et de ses compagnons.
Oui, je me posais justement pour ce retour aux sources et à l'Iliade, le problème de la mise en scène et du procédé littéraire d'une part, et puis d'autre part, la question du plus prosaïque, de l'équipement à l'époque archaïque. Parce que si on est d'homme à homme, le duel ne peut être qu'entre pairs équipés de la même manière. Et que seuls sauf erreur, l'archéologie a prouvé que les panoplies, les premières armures étaient lourdes, donc il fallait un char pour se déplacer. Et que d'autre part, donc un fantassin équipé à la légère n'était pas suffisamment bien équipé tout seul pour affronter un guerrier en armure complète. Ça aussi, ça peut jouer. On est en frontière entre la littérature d'un côté et le côté technique basique, si je puis dire.
Oui, je ne suis pas un historien, mais je trouve très intéressant d'essayer de faire le rapprochement avec aujourd'hui. Et c'est ce que je dirai un peu demain, mais il y a cette notion de campagne et de bataille. Une bataille, effectivement, on va gagner une bataille, on l'a tous bien expliqué, quel que soit l'endroit et la période, mais la notion de campagne implique cette notion, essentiellement par exemple dans le domaine aérien, sur la destruction de l'ennemi, parce que les ennemis, entre guillemets, sont comptés par le nombre d'avions. Et donc, cette notion de « il faut que je détruise par rapport à « je fais du prisonnier, je vais attraper par les cheveux et tout », je trouvais très intéressant cette analogie, mais avec aujourd'hui ce combat moderne, entre guillemets, on jouera beaucoup plus sur l'attrition de l'individu, du guerrier et tout, plutôt qu'une bataille à la rigueur qui n'a pas d'impact sur la suite. On fait une petite bataille qui n'est pas, comme on l'a dit, décisionnelle. Je trouve intéressant ce rapprochement.
J'ai une question qui peut s'adresser à vous deux. La cavalerie disparaît vraiment à l'époque archaïque, et surtout classique, où bien ne joue plus de rôle. Et là, il n'y en avait pas. Chez vous, il n'y en avait pas. Donc ma question est, est-ce qu'une absence, en l'occurrence de la cavalerie, a des conséquences positives, si vous voulez, dans le maniement des troupes, des soldats, des troupes, l'organisation? Une question qui n'a peut-être pas lieu d'être posée, mais...
Je crois que, en tout cas, d'après ce que nous savons, quand ils ont été confrontés la première fois à des cavaliers... Bon, évidemment, la première expérience est malheureuse pour les Amérindiens, hein, puisqu'ils n'en ont jamais vu. Et ils pensaient tout au début, d'ailleurs, que l'homme et le cheval ne faisaient qu'un seul et même être. Et ils ont très vite compris, quand ils ont vu enlever les selles le soir, etc., parce qu'ils observaient, ils avaient des espions, ils se sont dit, bon, non, c'est plus ça. Et ça ne marche plus. Et très rapidement, ils capturent des chevaux, en tout cas, on le sait, et les Incas, en quelques mois, constituent une unité de cavalerie. Ils vont tout de suite s'adapter à la situation. Alors, je pense qu'on peut, lorsque, par exemple, l'entrevue de Cajamarca, un cavalier espagnol charge l'Inca, enfin, l'entourage, puisqu'évidemment, le temps qu'il approche la litière de l'Inca, il y avait déjà une belle épaisseur humaine, et on dit que, et là, c'est le moine espagnol qui était là, et il nous dit que la bave du cheval coule sur les tuniques des gardes et que certains reculent, l'Inca fait immédiatement exécuter devant les Espagnols tous ceux qui ont bougé. Ce qui fait qu'après, plus personne ne bougeait devant les chevaux. Il valait mieux affronter le cheval que la colère du souverain. Et je crois qu'on peut s'adapter. Ils avaient des archers, ils avaient les bolas aussi. J'en ai pas parlé. Les bolas ont joué un rôle très important. Ce sont trois boules qu'on utilise encore en Argentine ou au Chili pour attraper les camélidés. Ils utilisaient ça dans les pattes des chevaux. Ça, c'était terrifiant. Alors, les Espagnols, avec les cuirasses qui tombaient par terre, les armures, là, ils ont très vite compris qu'ils pouvaient se confronter et affronter des forces différentes.
Oui. Non, la cavalerie n'a sans doute pas disparu, en fait. C'est ça, la difficulté. C'est-à-dire que nous avons des récits de batailles hoplitiques où elle ne joue pas de rôle. Elle apparaît quand même dans la fameuse bataille de des Lions, là. Il y a quand même des cavaliers, mais ils sont en force d'appoint. La cavalerie, elle intervient différemment. Elle intervient, par exemple, au moment du siège d'Athènes, au début de la guerre du Péloponnèse. La cavalerie, elle fait justement une sorte de guerre de harcèlement pour éviter que les Lacédémoniens ne s'installent trop et détruisent trop le territoire de l'Attique, sachant que les Athéniens avaient par ailleurs permis aux Lacédémoniens d'envahir leur territoire. C'est la fameuse stratégie péricléenne. Je pense qu'en fait, il faut penser la cavalerie comme un élément de l'aristocratie. Enfin, posséder un cheval, ça coûte cher. Les Eubéens, les Thessaliens ont toujours possédé des chevaux parce que la conformation du terrain s'y prête aussi. L'Attique, c'est sec, il n'y a pas beaucoup de prairies, c'est caillouteux, les chevaux se blessent. Mais même à Athènes, il y a toujours eu de la cavalerie. Elle était peut-être un signe de distinction aristocratique à une époque. Elle devient ensuite plus un élément technique purement. Et à l'époque hellénistique, il y a une cavalerie athénienne qui a un rôle à jouer. Mais justement, pas dans les grands déploiements, plutôt dans couvrir. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont mal connues, pour essayer d'appuyer la phalange, etc.
Et puis même la cavalerie retrouve dès le IVe siècle une utilisation technique dans la bataille par le biais des amipoi, c'est-à-dire du cavalier qui porte également un fantassin en croupe et qui peut se déplacer sur le terrain de la bataille.
Juste une réflexion pour finir, si vous permettez. Je voulais signaler qu'il y a un cas, mais c'est lié à la Thessalie et aux marges ou aux marches du monde grec, Alexandre a quand même réussi à combattre les Scythes avec succès. Et les Scythes étaient de très bons cavaliers. Et c'est une composante très particulière de l'armée macédonienne que cette cavalerie des compagnons notamment, qui est une grande efficacité sur le terrain et quelque chose qui est nouveau en quelque sorte. Mais qui est lié, je pense, à ces marches extérieures du monde grec.
C'était une simple, si vous me permettez, c'était une simple question d'ignorance. Vous avez évoqué les hoplites et donc la naissance de la phalange. Et dans mes vieux cours d'histoire d'autrefois, je me souviens de l'importance de la phalange macédonienne qui aurait été un élément décisif des victoires d'Alexandre. Et je me demandais quelle était la différence exacte entre donc le système des hoplites de la Grèce classique et cette fameuse phalange macédonienne. Je m'excuse pour ceux qui connaissent, mais moi, je ne connais pas.
La distinction la plus grande, c'est la longueur de la pique, en fait, qui fait 5 à 6 mètres. Voilà, c'est ça, oui. Et qui est avec une protection du phalangite qui est moins importante, puisqu'en fait le bouclier a un diamètre plus réduit. Et parce qu'il faut de toute façon trouver un système d'écharpe, en quelque sorte, pour pouvoir tenir la pique des deux mains. Et non, ils sont seuls à tenir, enfin, d'après la reconstitution qu'on a fait, ce qui pose des difficultés. C'est-à-dire qu'on tient la pique à peu près parallèle au sol jusqu'au cinquième rang, parce qu'après, sinon, on pique les fesses du premier, et donc on soulève. Et en fait, on en est aussi, enfin, c'est un élément important aussi par rapport à la bataille, c'est-à-dire qu'il y a des inventions finalement qui créent un différentiel tellement important que sur un champ de bataille, on imagine bien qu'une phalange hoplitique qui a un bout de pointe en fer à 3 mètres va l'emporter sur une petite phalange hoplitique traditionnelle qui va au choc, quoi, voyez. Donc il y a, voilà. C'est comme ça qu'on se représente les choses. Merci.